La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnat.
Bonjour.
Ce matin, vous nous parlez d'un pays qui vient d'interdire les rassemblements de plus de 5 personnes.
Oui, en Thaïlande, on ne vous dit pas combien vous devez être à table, mais par contre, un décret d'urgence vient de réduire de manière drastique la liberté de réunion, et ce n'est pas seulement pour des raisons sanitaires. Le gouvernement thaïlandais n'a même pas, enfin presque pas, la mauvaise foi de dire que c'est à cause de la pandémie qu'il interdit de facto tout rassemblement. Non, dans le Bangkok Post ce matin, je lis que c'est bien pour éviter les troubles à l'ordre public que le décret d'urgence a été pris, et par troubles à l'ordre public, tout le monde le comprend, ce sont clairement les manifestations pro-démocratie qui sont rendues illégales et qui sont donc visées. Pour The Guardian, qu'il affirme sans détour, le décret liberticide vise à empêcher que ne se reproduisent les scènes auxquelles on a assisté ce mercredi autour du siège du gouvernement à Bangkok. Des milliers de manifestants, des jeunes pour la plupart, venus redire, comme ils le font régulièrement depuis mi-juillet, qu'ils veulent la démission du Premier ministre Chan Ocha, allié à la junte militaire, et la fin de la dispendieuse et archaïque monarchie constitutionnelle thaïlandaise. Les manifestants avaient juré de camper dans la rue jusqu'à obtenir gain de cause, explique The Bangkok Post, mais ils en ont été violemment chassés hier soir par un impressionnant dispositif policier en vertu, vous l'avez compris, du nouveau décret.
Il faut dire, Camille, que la tension s'était élevée à des niveaux encore jamais atteints depuis le début de la mobilisation.
Avec un moment, c'est vrai, qui a concentré cette tension de la confrontation entre la foule d'un côté et ceux qu'elle était venue combattre de l'autre. Voilà, vous avez peut-être entendu derrière les cris des manifestants le vrombissement d'un moteur. C'est la Rolls-Royce couleur ivoire du roi et de la reine de Thaïlande.
C'est le feulement pour...
Oui, c'est ça. C'est assez impressionnant pour tenter de disperser donc la foule et cette voiture qui tente de traverser la place avec son cortège royal. Des huées, donc, la foule qui laisse finalement passer le cortège mais qui adresse au couple royal son signe de ralliement devenu célèbre, ce salut bras tendu et trois doigts levés, référence au film Hunger Games ou la pop culture pour revendiquer la démocratie. C'est le New York Times qui nous raconte dans son édition numérique du soir ce court moment où les altesses n'ont eu d'autre choix que de sortir de leur bulle de luxe et d'apparat pour voir de leurs yeux la colère qui gronde dans le peuple et en juger par le visage de la reine Sutida, capté par un photographe de l'agence Reuters à travers la vitre de la Rolls. Cette confrontation a quelque chose de vraiment effrayant. Voilà donc ce qui a justifié ce décret d'urgence ad hoc pour autoriser la dispersion musclée des manifestants dans la soirée et l'arrestation d'une vingtaine de leaders du mouvement pro-démocratie. Mais cette jeunesse intrépide qui défie la monarchie et les militaires, comme l'a décrit la Nikkei Asian Review, a déjà dit son intention de braver l'interdit dès ce jeudi pour se rassembler à nouveau et pour exiger toujours la démission du Premier ministre thaïlandais. Comme le résume le Bangkok Post, les tensions d'hier n'ont fait que conforter chacun des deux camps dans l'intransigeance de sa position. Mais ce que l'on a vu aussi ce mercredi dans les rues de la capitale thaïlandaise, ce sont des contre-manifestations de partisans de la monarchie constitutionnelle, des contre-manifestants donc qui est toujours tout aussi déterminé à défendre le pouvoir en place. On verra au cours de cette journée si l'interdiction de rassemblement à plus de 5 personnes s'applique également à eux.
Et puis l'actualité, en Camille Magnat, en Amérique latine, c'est la clôture de la campagne présidentielle en Bolivie.
Oui, dernier meeting hier soir pour les candidats à cette élection décisive dont le premier tour va se dérouler dimanche. Si vous vous souvenez de la précédente l'an dernier, elle avait fait basculer la Bolivie dans une profonde crise politique. La réélection pour un quatrième mandat consécutif d'Evo Morales avait été dénoncée comme frauduleuse, ce qu'elle n'était apparemment pas, mais ça on l'a compris plus tard. Et Morales avait dû fuir le pays. La droite ultra-conservatrice bolivienne avait pris le pouvoir, jurant d'organiser un nouveau scrutin rapidement. Mais le Covid était passé par là. Il sévit toujours en Bolivie. L'élection aura tout de même finalement bien lieu dans 3 jours. Et ce sera donc, résume l'édition hispanophone de CNN, la première sans Evo Morales depuis très longtemps. Le MAS, le parti socialiste indigéniste de l'ancien président en exil, a investi cette fois Luis Arce, qui a très longtemps été le bras droit de Morales au pouvoir, mais qui, par sa crédibilité sur les questions économiques, arrive à exister politiquement par lui-même, selon le journal équatorien El Universo. Et un an après avoir été chassé du pouvoir, les socialistes sont en tête dans les sondages, favorisés, toujours selon CNN en espagnol, par les divisions qui affaiblissent l'opposition. Car en face, il y a l'opposition opposant de toujours à Morales, l'ancien président Carlos Mesa, sur une plateforme de centre-gauche, et à droite, le candidat indépendant Luis Fernando Camacho, qui devrait attirer les voix de la région riche et blanche de Santa Cruz et qui pourrait priver Carlos Mesa d'un second tour face aux masses donc de Luis Arce. Ce dernier promet de respecter les résultats de dimanche, mais d'après le journal catalan El Periódico, il demande des garanties démocratiques sur le bon déroulement du scrutin, notamment sur le rôle et l'indépendance du tribunal électoral bolivien, le rôle également des observateurs envoyés par l'Organisation des États américains, l'OEA, avait l'an dernier orchestré les accusations de fraude contre Evo Morales et l'avait poussé à abandonner le pouvoir à un coup d'État, selon la terminologie utilisée par le MAS. Les socialistes bolivariens espèrent donc prendre leur revanche sur l'an passé ce dimanche, mais qu'ils se méfient, avertit le quotidien argentin La Nación. Déçu par les promesses non tenues des années Morales, la base électorale du MAS, ouvrier et indigène, pourrait, nous dit-on, déserter les urnes.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale. Il est 7h43 sur France Culture.